écoutez le programme du studio Kalangou, il est 17h. Dans un instant, le journal en français dans une présentation de Rafika Taher. Vendredi 17 juin 2022, à la une dans cette édition, la réunification entre les familles et les enfants admis dans les orphelinats est un processus qui existe au Niger. Comment il est conduit? À suivre les explications du coordinateur local du village d'enfants SOS dans ce journal. Plus de 1000 actes de naissance établis entre 2019 et 2022 n'ont pas été retirés à Baleyara. La directrice départementale de l'état civil appelle les parents des enfants à la responsabilité. La partie magazine de cette édition parlera de Kande Nsarki, une conteuse traditionnelle rencontrée à Dogondouchi, dans la région d'Odosso. La journée de l'enfant africain a été célébrée hier 16 juin. Au Niger, la majorité des enfants dans les orphelinats n'ont pas de référence lorsqu'ils sont référés dans ces centres. Le village d'enfants SOS de Niamey accueille, lui, des enfants référés par des institutions publiques. Comment se fait la réunification avec les familles biologiques? Omar Seydou, coordinateur local de prise en charge alternative du village d'enfants SOS, explique au micro de Farid Bourema.
Nous les prenons immédiatement et on les garde avec nous. Si à la charge qu'on trouve leur famille, on tente de créer les conditions pour les réunifier. Mais avant de les réunifier, on fait une étude de faisabilité dans cette famille-là. Est-ce que cette famille remplit les conditions pour réunir l'enfant? Au cas contraire, nous continuons à garder l'enfant avec nous pour lui créer des conditions de vie décentes. Mais toujours est-il que nous gardons contact avec la famille. Avec le temps, nous créons même ce qu'on appelle un système avec les parents biologiques pour permettre à ces parents-là d'avoir de quoi nourrir ou s'occuper de l'éducation des enfants.
Toujours à l'occasion de la journée de l'enfant africain, l'épouse du président de la République a présidé la cérémonie de pose de la première pierre du complexe communautaire de Matamey. Celui-ci pourrait contribuer à réduire la migration des femmes et des enfants du département de Kanché. Aja Hadiza Bazoum sur des propos recueillis par Habou Sarki Saleh.
Nous avons pris des dispositions pour qu'on apprenne aux femmes les métiers domestiques et nous allons faire venir des formateurs de Niamey. Et c'est surtout dans le but d'empêcher les femmes d'aller mendier dans d'autres pays. Et après la formation, des diplômes leur seront délivrés. C'est une grande opportunité aussi. Sur la moitié de ces terrains, nous allons aussi construire un jardin d'enfants pour que les petits-enfants soient scolarisés. Ils pourront étudier au lieu d'aller mendier. Il y aura même un internat pour les enfants qui viennent du village. Ils peuvent résider ici et étudier. Ils pourront retourner chez eux pendant les vacances.
Plus de 1000 actes de naissance établis entre 2019 et 2022 par les services de l'état civil n'ont pas été retirés à Baleyara, selon les responsables. Malgré la gratuité de la délivrance de ces actes, plusieurs parents tardent à venir chercher les actes de naissance de leur enfant. Madame Fatouma Soumana Yakouba, directrice départementale de l'état civil, au micro de Hassan Moumouni.
On a plus de 1007 actes de naissance non retirés qui se trouvent actuellement à la commune rurale de Tagaza. J'appelle les parents à venir massivement retirer ces actes pour leurs enfants puisque sans acte de naissance, on ne peut rien faire. Même pour inscrire les enfants à l'école, il faut l'acte de naissance. C'est ça le poumon de toute chose. Il faut vraiment un acte de naissance pour que l'enfant ait accès à toute chose dans la vie. Donc, il ne faut pas pénaliser ces enfants. Ils sont innocents sur leur plein droit d'avoir l'acte de naissance. Comme dit le premier droit de l'enfant, même de la CDE, c'est l'enregistrement dès la naissance. L'enregistrement est gratuit. C'est gratuit dans les délais de 0 à 60 jours.
Les autorités communales d'Agadez ont organisé dimanche 12 juin une rencontre avec les acteurs et partenaires de l'éducation. Cette réunion a porté sur la violence qui sévit en milieu scolaire avec les élèves qui agressent les enseignants avec des armes blanches. Les responsabilités sont situées et les causes sont diverses, explique le maire d'Agadez, Abdrahmane Tourawa, au micro de Moussa Maman.
Ici à Agadez, nous avions eu des témoignages au niveau secondaire. Les proviseurs qui ont témoigné, qui nous ont présenté des cas concrets de violence ou des tentatives de violence. Ensemble avec tous les acteurs, nous avions échangé pour voir les causes. Donc, elle a été identifiée un certain nombre de causes, dont l'abandon de l'éducation à la base, au niveau même familial, souvent les manques de vigilance au niveau des administrations scolaires, au niveau du corps enseignant et au niveau des autres acteurs de l'école. La consommation des stupéfiants, les chichas, les dérivés de certaines drogues sont dans nos rues que les enfants profitent, consomment, sont des causes de certains comportements indécents.
La semaine dernière, une mission du Conseil des jeunes de la commune rurale de Tondikandia passe de fada en fada dans la ville de Damana pour sensibiliser les jeunes sur la non-consommation des stupéfiants. Boubacar Hamidou, président du Conseil des jeunes, explique la démarche pour lutter contre la prise des stupéfiants au micro de Seydi Abdou Winditan.
Pour réduire ou endiguer la consommation de stupéfiants, nous pouvons nous organiser pour faire des séances de sensibilisation ciblée. La seconde solution que beaucoup d'entre nous connaissent, les dealers de drogue, nous pourrions les rapprocher en douce pour les expliquer les dangers de cette activité et ses conséquences sur la jeunesse, alors même que la société compte sur cette jeunesse pour le futur. Car la pierre angulaire de ces phénomènes de stupéfiants, c'est les dealers. Parce que s'il n'y a pas de drogue sur les marchés, le consommateur n'est peuvent en consommer. Les populations peuvent aussi solliciter l'appui des autorités pour instruire les forces de défense et de sécurité à faire des patrouilles et enquêter. Et surtout, punir sévèrement toute personne prise en flagrant délit.
Huit boutiques, dont quatre en face du bâtiment administratif abritant le commissariat du Grand Marché de Niamey, ont été cambriolées mercredi nuit. Un vol qui inquiète les commerçants du dit marché. Selon Issaka Ousseini, délégué des commerçants, bientôt des mesures seront prises pour solutionner ces vols qui deviennent récurrents. Il explique au micro de Moussa Hassan.
C'est huit boutiques qui ont été cambriolées, dont quatre en face du commissariat. Et c'est ça qui nous a beaucoup surpris, ça nous a beaucoup écœurés. Mais quand même, nous avons eu beaucoup de contacts avec le commissaire et le directeur de la Socogène. Parce que c'est irréel en face du commissariat, ça veut dire que la sécurité est à désirer.
Qu'est-ce que maintenant vous préconisez pour plus sécuriser vous et vos biens dans ce marché?
Pour l'instant, on a eu quelques réunions entre nous. La semaine qui va suivre, nous allons prendre des dispositions. Mais d'ores et déjà, nous lançons un appel au chef du gouvernement, au président de la République, de voir comment les choses se passent. Parce que trop, c'est trop. Il y a eu tellement de cambriolages dans ce marché-là que ça commence à faire peur aux commerçants. Un petit voleur ou un petit soulard vient rentrer, il prend tout ce qu'il veut dans les boutiques. Et nous payons les cotisations, on paye tout.
L'ONG Femmes Action et Développement FAD, en collaboration avec l'ONG SOS Civisme Niger, ont organisé à Maradi une rencontre d'échange sur la tolérance religieuse. Il s'agit au cours de cette rencontre entre autorités administratives, leaders religieux et les associations des femmes et des jeunes de valider un document où sont répertoriées des recommandations pouvant permettre de consolider la tolérance religieuse au Niger. Hamidou Aderkas, chef du projet, au micro de Mohamed Maman.
C'est un programme qui a débuté il y a 10 mois de cela. On a mené des activités, dont entre autres les focus groups, qui servaient à recueillir les avis mais aussi les besoins des communautés en vue de renforcer la cohésion sociale, la liberté de religion et la tolérance au Niger. Et après ces focus groups, ces communautés ont été amenées à formuler des recommandations. C'est ces recommandations qui sont présentées et qu'on essaye de voir dans quelle mesure les consolider et avoir un document synthétique unique qu'on présentera aux autorités. Ils ont d'abord émis des recommandations et ces recommandations-là ont été reparties en deux groupes. Il y a des recommandations qui visent des changements de politique et des recommandations qui visent des changements de procédure. Parmi ceux qui visent des changements de politique, il y en a qui demandent à ce qu'il y ait une structure consensuelle de gestion des affaires religieuses. Et de manière procédurale, ils demandent à avoir un cadre de concertation qui inclut tous les citoyens et qui vise à renforcer la tolérance, la cohésion sociale au Niger.
Chaque année, en cette période de soudure qui coïncide avec le début de la saison pluvieuse, les éleveurs font face à des problèmes. Ceux-ci ont pour nom manque de paille et de son pour l'alimentation du bétail, ce qui entraîne la mort de plusieurs animaux. Boubérouga, chef de la tribu Peul de la commune de Dosso, lance un cri de cœur à l'endroit des autorités. On l'écoute au micro de Nana Hadiza Hassan.
Chaque année, cette période, les éleveurs sont en difficulté parce que l'herbe sèche est finie. Les agriculteurs ont nettoyé et brûlé les tiges et autres résidus des champs et les arbres élagués. Ici, dans la région de Dessau, l'éleveur peut parcourir environ 20 km avant de trouver un espace où ces animaux peuvent avoir un peu d'herbe ou feuilles d'arbustes pour se nourrir. Chaque fois, à pareil moment, l'État et le partenaire nous appuient à travers la vente à prix modéré du son. Cette année, le gouvernement a amené le son, mais ce n'est pas encore parvenu au niveau des éleveurs. Mais si les animaux ont trop faim, le son ne peut que servir à les maintenir en vie, sur pied. Ils ne peuvent même pas manger d'eux-mêmes. Il faut les nourrir. Donc, s'il y a la disponibilité, dès le mois d'avril, par exemple, le son doit être mis à la disposition des éleveurs dans les points de vente.
Les autorités de Ngourti et celles de la province du lac Tchad se concertent régulièrement sur des questions comme l'exploitation des ressources naturelles communes. Une rencontre de médiation transfrontalière internationale entre agriculteurs et éleveurs des deux pays s'est tenue cette semaine à Bol, capitale de la province du lac Tchad. Maman Seguirou, préfet du département de Ngourti, au micro de Mustapha Mamansani.
C'est une rencontre qui n'est pas la première du genre. Ils ont eu à faire une première à Difa l'année passée entre le Tchad et le Niger. C'est une rencontre qui vise à analyser les différents problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs des régions frontalières dues à l'exploitation des ressources naturelles communes. Ici, c'est de faire le point sur ce qui a été convenu ou sur ce qui a été arrêté à Difa, de faire un bilan, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Maintenant, pour ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que les choses n'ont pas marché et quelles sont les solutions à envisager?
La première édition du championnat national d'athlétisme pour personnes aveugles et malvoyantes débutera demain samedi 18 juin au stade général Sani Kounché de Niamey. Il est organisé par la Fédération nigérienne des sports pour personnes aveugles et malvoyantes. Chacune des 8 régions est représentée par 2 athlètes, un homme et une femme. Ibrahim Amadou, un des organisateurs du championnat, explique au micro de Habib Garba.
Eux, c'est des personnes malvoyantes. Ils peuvent courir et doivent être accompagnés par quelqu'un qui est devant eux, qui va crier, les faire signe, juste pour les montrer là où ils se trouvent et là où la ligne se trouve. Quoi. Ça, c'est au niveau des malvoyants. C'est en prélude d'une compétition internationale qui aura lieu, s'il plaît à Dieu, en 2023. C'est une seule personne qui guide tout le monde. Ça, c'est les techniciens qui s'en servent de ça, c'est d'accompagner l'athlète jusqu'à la destination, puisque l'athlète doit suivre le cri jusqu'à l'arrêt. Bon, plus souvent, nous, et pour ça, c'est 200 mètres et 100 mètres qu'on fait. Et par exemple, chez les garçons, 200 mètres, et chez les filles, on prend 100 mètres.
Le conte est une tradition africaine vieille de plusieurs siècles. Une littérature orale servant à transmettre les valeurs de la société. Dans le département de Dogon Douti, Kande Nsarki, conteuse, perpétue cette tradition orale. Farid Bourema est allé à sa rencontre. Voici son reportage.
Cette voix, c'est celle de Kande Nsarki. Entourée de ses filles et petits-fils, elle leur conte des histoires pleines de leçons de vie. Ce conte se déroule généralement de nuit.
Les contes se font la nuit autour d'un feu. Chacun compte à son tour. Pourquoi les contes se font? À travers cela, on raconte l'histoire. Tu acquiers des expériences. Les contes que tu vois, nos ancêtres ont fait beaucoup d'efforts parce qu'avant, il n'y avait ni école ni rien. Pourtant, ils ont créé ces histoires. Ils les ont racontées jusqu'à ce que d'autres les ont appris. Cependant, on dit qu'on ne compte pas pendant la journée parce que tu risques de te perdre. Mais que tu fasses le compte ou pas, si Dieu décide que tu vas te perdre, tu te perdras. Maintenant, les comptes n'existent plus.
Bien que cette pratique tende à disparaître, Kande perpétue cette tradition en initiant ses petits-fils et filles. C'est le cas de Saadot, par exemple.
Je suis très contente. Je l'ai hérité de ma mère. La nuit, quand on n'a rien à faire, elle narre des contes pour moi. Mais c'était avant. Maintenant, nous sommes toutes mariées, mes soeurs et moi. Mais avant, elle nous racontait des contes. C'est surtout la nuit, après le dîner. Elle nous rassemble et elle nous raconte des contes jusqu'à ce qu'on s'endorme. Quand j'étais très jeune, je l'accompagnais aussi à la radio. Quand elle finissait de faire ses contes, je demandais à en faire aussi.
Kande Dansalki est fière de l'héritage qu'elle partage et lègue à sa descendance.
Nous sommes au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu. Dans un instant, place au journal Entamachek avec Alamine Ouachar. À 18h15, suivez le forum de la presse dans une présentation de Michel Dédi.